Rayon Libre sur Cause Commune.
L'idée, c'est que toutes les personnes qui peuvent faire du vélo le fassent. Et il y a encore de la marge. Hein.
Je pense que le vélo, c'est tellement un outil qui rend libre.
Rayon Libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur Cause Commune, salut à toi qui nous écoute sur la bande FM parisienne, t'es sur 93.fm, salut à toi qui nous écoute sur le DAB+, bah t'es quelque part sur le DAB+, salut à toi qui nous écoute en streaming sur le site de causecommune.fm, salut à toi aussi qui nous écoute depuis l'appli ou encore en podcast, ravi de vous retrouver tous et toutes, salut vous qui faites des dons pour soutenir le travail de cette association libre à toi qui héberge cette radio Cause Commune, qui est une radio associative. Cette semaine, gardez le patrimoine vivant. Il y a des labels qui décorent une vitrine et il y a des labels qui racontent un pays. Le label Entreprise du patrimoine vivant, l'EPV, fait partie de cela. C'est un label de l'État créé pour distinguer des entreprises françaises, artisanales comme industrielles, qui détiennent des savoir-faire rares, d'exception, parfois même uniques. Et ce label n'est pas un titre à vie, il est attribué pour une durée limitée, 5 ans, puis réévalué. Entreprise du patrimoine vivant, patrimoine parce qu'on parle de techniques, de gestes, d'outils, de matières, de métiers, qui se transmettent. Vivant parce que ce patrimoine ne se contemple pas, il se fabrique, il s'emploie, il se vend, il s'adapte. Il existe dans le présent, au milieu des contraintes très concrètes, les coûts, les délais, la concurrence, les carnets de commandes, l'énergie, la trésorerie. Préserver un savoir-faire au milieu de tout cela. L'EPV ne concerne pas que le vélo, loin de là. On le retrouve dans la porcelaine, dans le textile, dans le cuir, dans les métiers d'art, dans la verrerie, la métallerie, l'ébénisterie, la restauration. Il y a des métiers de couvreur aussi et dans une foule de manufactures qui font chaque jour la preuve qu'un geste peut être à la fois ancien et moderne. Fouiner dans les annuaires publics et les bases de données officielles, on a un patrimoine d'entreprises incroyable, le patrimoine et les entreprises. Je pourrais évoquer Ligne Rosée, le Togo, et oui, il fait partie de ce patrimoine vivant, ou encore les luminaires de Lille. On est dans une maison où le savoir-faire ne tient pas seulement au beau, il tient à la maîtrise de la matière, au travail du bronze, des structures, des finitions, aux sur-mesures, aux détails invisibles qui fait qu'un luminaire n'éclaire pas seulement une pièce. Il fabrique une ambiance. De Lille revendique ce compagnonnage entre héritage et création et la maison est reconnue EPV. Parce qu'un cadre, c'est aussi une affaire de lumière, la lumière qui révèle une ligne, la lumière qui accroche une soudure, qui trahit un défaut ou au contraire signe une maîtrise, la lumière qui raconte l'exigence, le juste geste, la patience. Comme un luminaire, un cadre peut être fonctionnel ou devenir une pièce de savoir-faire, une pièce où l'usage et l'excellence ne s'opposent pas, ils s'additionnent. La valeur de ces savoir-faire est immense et leur fragilité l'est tout autant. Le label EPV reconnaît une excellence, mais il ne constitue pas un bouclier. Il ne protège pas mécaniquement des tempêtes économiques, il ne garantit ni la trésorerie, ni le carnet de commandes, ni la stabilité des marchés. Il dit ici, il y a quelque chose de rare, mais il ne dit pas, tout ira bien, madame la marquise. Alors je repose la question simplement, qu'est-ce qu'on veut préserver au juste? Des marques, des emplois, mais aussi des gestes, des métiers, une capacité à produire ici, une culture technique, un patrimoine qui ne tient pas dans des vitrines, mais dans des ateliers, un patrimoine qui ne se cache pas, mais qui roule sur nos plus belles routes de France. Mon invité est-il justement à cet endroit précis, l'excellence reconnue et la vulnérabilité du réel? Son entreprise montre-t-elle que le patrimoine vivant peut vaciller, même lorsqu'il est labellisé? Et lui, qu'en pense-t-il? Et quel héritage propose-t-il en souhaitant trouver un repreneur à son entreprise? Pour nous répondre, Aymeric Lebrun, gérant de CIFA, qui est avec nous dans Rayon Libre. Bonjour Aymeric, merci d'être au micro avec nous aujourd'hui.
Bonjour Jérôme.
Aymeric, vous étiez au micro de Rayon Libre, hein. Il y a quelques années, c'était le Rayon Libre 186, nous étions en décembre 2023 et un mois après ces mots magnifiques de notre ministre de l'Industrie de l'époque, Roland Lescure, notez qu'il est toujours en poste hein, en tant que ministre de l'Économie, des Finances, de la Souveraineté Industrielle, Énergétique et Numérique de France, il avait déclaré au cours des Assises du Vélo à Bercy cette phrase qu'on ne peut oublier, il appelait de ses vœux des vélos 100% made in France, 100% éco-conçus et 100% pas cher. Aymeric, nous sommes en mars 2026, à quel moment ça a merdé.
Alors merci pour cette introduction, merci pour ce sujet qui rappelle aujourd'hui que ce vœu était vraiment un fantasme.
Ouais.
Moi, je crois qu'il y a plusieurs éléments et plusieurs événements. Déjà, faire un vélo 100% français, c'est déjà quelque chose qui est très illusoire puisque la plupart du temps, seul le cadre était encore potentiellement fait en France et ça représentait quelques unités sur le territoire sur les millions de vélos vendus.
Ouais.
Et avoir l'ambition qu'il soit éco-responsable et pas cher, c'est on va dire un discours de façade ou en tout cas un champ lexical très, très apprécié, mais qui n'avait pas de, de réalité économique derrière. Donc, ouais. En plus de cette ambition, au moment où on va dire, la dynamique autour de l'économie du vélo était la plus forte, depuis le vélo et le marché du vélo a rencontré quelques tempêtes,
ouais.
Et puis la réalité de fabriquer localement se confronte aussi à des réalités de concurrence finalement déloyale à l'autre bout du territoire. Donc, on va dire qu'il y a eu une euphorie générale au moment de ces assises, et puis que la réalité mondiale nous a rattrapés depuis.
Ouais. Mais alors vous, aujourd'hui, Aymeric, vous êtes gérant de la société qui s'appelle CIFAC International. Est-ce que vous pouvez quand même, pour les auditeurs et auditrices, rappeler le contexte dans lequel vous venez aujourd'hui au micro ?
Un contexte qui est pas très heureux, mais qui est totalement sincère et responsable. Aujourd'hui, l'entreprise est en difficulté économique et avait ouvert une procédure de sauvegarde le 14 octobre.
Oui.
Donc, une procédure collective qui permettait de mettre pause sur le passé et de pouvoir rebondir. Malheureusement, on n'a pas réussi aujourd'hui à redéployer et à permettre de retrouver un équilibre structurel. Et donc, depuis fin janvier, on a fait un appel d'offres pour rechercher un repreneur de l'activité. Et donc aujourd'hui, on est dans une phase de recherche de repreneur en session judiciaire, c'est-à-dire que c'est à la barre du tribunal.
Ouais.
On dit en général, et l'objectif aujourd'hui, où la structure CIFAC internationale a vocation à s'arrêter via une liquidation judiciaire, mais poursuit son activité parce que d'une part, nous avons des vélos en fabrication et
des commandes.
Ou des commandes, oui. Et puis les propriétaires qui attendent patiemment leur vélo depuis plusieurs mois,
ouais.
Et qui d'ailleurs qui nous soutiennent dans la situation actuelle. Et puis parce qu'aujourd'hui, c'est aussi un moyen de finalement permettre à un repreneur de reprendre les actifs, de reprendre le savoir-faire, de reprendre les marques, mais finalement en ayant une situation bien plus saine, puisque le passif reste adossé à la structure qui sera mise en liquidation judiciaire. Donc pour rebondir aujourd'hui, c'est clair que c'est un moment difficile, puisque c'est des mots qu'on n'a pas forcément envie d'employer quand on est chef d'entreprise.
Ouais.
Quelque part, moi, en tant que gérant de CIFAC International, je suis en train d'écrire les dernières lignes de ce chapitre-là, mais
ouais.
Je participe, en tout cas, je me bats avec les équipes aujourd'hui pour que ce savoir-faire-là, dont vous avez très très bien décrit, il y a le label EPV, je crois que c'est la meilleure définition que j'ai entendue depuis que je connais le label EPV.
Allez, je le prends comme un compliment, Aymeric.
Non, mais vous faites bien, mais c'est vrai que c'est... On est sur quelque chose de précieux, et si on met vivant derrière patrimoine, c'est qu'on a envie que ça ne disparaisse jamais, quoi.
Oui.
Donc, on est vraiment dans ce moment-là.
Mais justement, aujourd'hui, alors peut-être que c'est intéressant, malgré tout, alors moi je connais, j'ai fait mon boulot, de regarder un peu ce que CIFAC International propose, mais aujourd'hui, si vous deviez lister les 3-4 grands savoir-faire que vous avez et que vous voulez transmettre, c'est quoi chez CIFAC International ?
Alors il y a déjà, je pense, une histoire, mais qui est pas
Qui est pas tangible. C'est pas un savoir-faire, ça, une histoire. C'est un asset.
C'est une transmission malgré tout. C'est une transmission, c'est-à-dire que c'est une culture, c'est un ADN, et finalement c'est transmissible. C'est transmissible au moins dans l'idée qu'on se fait du vélo et dans les valeurs que porte la marque.
Oui.
Mais dans les savoir-faire, il y a une vraie culture du sur-mesure,
ouais.
Du sur-mesure artisanal, parce que finalement seul le geste artisanal permet de faire des vélos qui correspondent à un cahier des charges précis et un cycliste unique.
Ouais.
Savoir-faire qu'on a finalement sur au moins trois matériaux, l'inox, le carbone et l'acier,
ouais.
Et puis un savoir-faire aussi sur la peinture.
Ouais.
La peinture aujourd'hui qui est quelque part... souvent ce qui fait la différence esthétique sur un vélo et ce qui permet aux cyclistes de s'exprimer totalement,
ouais.
Puisque les goûts et les couleurs ne se discutent pas,
ouais.
Quand la partie technique est un peu plus du ressort des concepteurs et des cadreurs.
Ouais. Un bon vélo, c'est un bon vélo, mais un beau vélo, ça c'est pour le coup, c'est à l'appréciation de chacun.
Oui, on n'a pas le monopole du goût.
Non, enfin vous non, moi peut-être, mais vous non.
Non, mais Maintenant, je vous ai croisé une fois, je sais que vous ne l'avez pas compris.
Non, non plus. Mais... Non, mais pour être sérieux, c'est intéressant. Donc, il y a un savoir-faire sur des matériaux, il y a un savoir-faire sur de la conception de vélos, et il y a un savoir-faire aussi, je sais que vous êtes reconnu aussi pour être une entreprise qui reçoit notamment des cadres en carbone pour les réparer et les remettre sur la route.
Oui, ce qui est important, voilà, pour résumer un petit peu l'ensemble des savoir-faire, c'est que toute la chaîne de valeur de fabrication d'un vélo, en fait, est sur le même site. On va de la conception jusqu'au montage du vélo et tout est fait en interne. Et à partir du moment où on sait faire tout ça, on sait donc démonter un vélo cassé et on sait le réparer. Et oui. En particulier sur le carbone, où là, c'est contre-intuitif, hein, puisqu'on a souvent le sentiment que le carbone n'est pas réparable, oui. Il est réparable. Et en fait, vu que 99,9% des vélos carbone qui roulent sur le territoire sont fabriqués à l'autre bout du monde, oui. Les marques qui le commercialisent sont incapables de le réparer, alors que nous, en tant qu'artisans, on est capables d'intervenir localement. Et c'est une activité finalement qui permet depuis...
Est-ce que ça, c'est une activité qui est rentable ou est-ce que, pour poser la question autrement, demain, développer ce service-là de réparation carbone à plus grande échelle, c'est quelque chose que, je dirais, les personnes ou les entreprises qui ont envie de reprendre CIFAC International, à votre avis, devraient tenter de développer ?
Ah, je suis persuadé que c'est un axe de développement, c'est un axe de rentabilité le plus fort.
Oui.
Et quelque part, en fait... Par le savoir-faire acquis, alors c'est sur de la stratification carbone, donc c'est vraiment le drapage que l'on fait nous sur un cadre neuf, on va le faire localement sur la partie cassée.
Oui.
C'est vraiment quelque chose qui est maîtrisé, qui est rentable, qui est efficace, puisque on est sur des délais de 3 à 4 semaines, donc ça permet aussi aux clients de pouvoir récupérer rapidement son vélo. Et puis là, on va dire que le marché il n'est pas tarif, puisque c'est des millions de vélos qui roulent en carbone,
oui. Des
millions de vélos pas qui cassent, mais en tout cas, dès qu'il y a une chute, le carbone, il va pas se plier, il va fissurer. Et puis notre expertise nous permet aujourd'hui d'être très efficace. Et c'est peut-être l'activité la plus rentable aujourd'hui.
Ok, la plus rentable à terme et sur laquelle vous avez visiblement ou a priori assez peu de concurrence, j'imagine. C'est un savoir-faire qui est assez particulier.
Oui, complètement. C'est vrai qu'on nous on a la chance en plus d'avoir la peinture, l'atelier peinture qui oui. Permet de rendre invisible la réparation. C'est-à-dire oui. Qu'on fait une réparation structurelle, une réparation esthétique. Et puis, je pense qu'il y a aussi quelque part pour les partenaires, que ce soit des marques qui nous proposent la réparation, des marchands de vélos ou le consommateur, se dire que la réparation est faite par une marque établie et donc qui s'engage aussi finalement au nom de ses marques propres.
Oui.
Donc il y a une forme de crédibilité garantie.
Oui, il y a une sorte de transmission de la garantie du savoir-faire.
Complètement.
Oui. Quand vous me dites que vous avez placé CIFAC International en procédure de sauvegarde en 2025 et qu'aujourd'hui vous cherchez vous êtes en format de cession judiciaire avec une poursuite d'activité, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, Aymeric, à prendre cette décision, cette envie d'aller sur une cession judiciaire, cette envie ou ce besoin d'ailleurs?
Oui, je pense qu'on est le besoin qui provoque l'envie.
Oui.
Non, je pense qu'il y a une forme de lucidité aussi qu'il faut avoir, c'est-à-dire que l'entreprise dans son fonctionnement actuel et par rapport à son passé, donc son passif, n'est plus en capacité d'assurer la pérennité de l'activité.
Oui.
Donc cette volonté-là aussi, parce que on passe par la phase de liquidation judiciaire avec poursuite d'activité, hein, ce qui permet la liquidation judiciaire, aujourd'hui est aussi une façon responsable de protéger les salariés.
Oui. Combien de salariés vous avez aujourd'hui ?
On a 11 salariés.
Oui.
Plus moi.
Oui, 12. On va se faire une pause musicale et une jolie musique pour vous, Aymeric, qui s'appelle Too Cool to Be Careless. Et la question que j'avais envie de vous poser après, vous avez donc 3 minutes pour essayer d'y réfléchir, c'est pour poser la question un peu autrement de qu'est-ce qui vous donne envie ou pourquoi vous avez besoin de prendre ces décisions. Est-ce que c'est le patron qui prend cette décision ou est-ce que c'est l'homme, Aymeric Lebrun, qui a la sensation qu'il a besoin de passer à autre chose? Mais vous avez tout le temps de la musique pour tenter de réfléchir à une réponse parce qu'on s'écoute Too Cool to Be Careless de PAWSA et je vous dis à tout de suite.
Someone to count on, a world ever changing. Here I am, stop where you stand. What you need is a lover, a man to take over. Oh girl, don't look any further. Tonight we're gonna taste a little paradise. Me all night long. Daylight, I'll still be looking in your ebony eyes. And we'll go on and on and on.
Vous écoutez Rayon Libre, vous êtes sur Cause Commune 93.fm, un Rayon Libre qui ne veut absolument pas rentrer dans la nostalgie. La musique dit tout cool, to be careless. Moi, je pense que Sifak, il est tout cool, tout die. Nous êtes de retour, toujours sur Rayon Libre, deuxième partie de Rayon Libre avec Aymeric Lebrun, gérant de Sifak International. Aymeric, pour poser la question autrement, comme je disais, est-ce que c'est l'homme ou le patron qui prend cette décision de mettre Sifak et de transmettre Sifak ?
Question, comment dire, ça n'a pas une réponse simple. On va dire que c'est l'homme, alors c'est le patron depuis le départ hein, qui, oui, qui dirige et qui prend les décisions, mais c'est l'homme qui aussi a considéré qu'il arrivait peut-être à la fin du chemin et qu'il avait aussi eu besoin finalement de se reconsidérer en tant qu'Aymeric Lebrun et pas Aymeric Sifak.
Oui.
Et puis après, c'est le patron depuis qui prend le relais parce que, mais qui est très associé à l'homme. Hein. On va dire que le patron considère qu'il a besoin d'un nouvel homme.
Ouais.
L'homme considère qu'il doit mener jusqu'au bout son rôle de chef d'entreprise. Donc, bon, aujourd'hui, c'est le patron qui a la manœuvre, mais sur la décision d'un homme qui reste un homme.
Oui.
C'est un peu prétentieux ce que je dis, comme si on avait considéré que j'étais un
extraordinaire. Ouais.
Mais voilà, je veux être aussi Aymeric Lebrun.
Oui, mais c'est important. Et justement, selon vous, quel serait le profil parfait du repreneur ou de la repreneuse, personne ou entreprise ? Vous avez identifié ça ou vous êtes posé cette question-là de à qui vous aimeriez que Aymeric Lebrun, que Sifak International soit repris ?
Alors, j'ai pas le portrait robot ou le portrait idéal du ou de la repreneuse, mais enfin, moi, ce que j'aimerais, ou ce que je trouve, en tout cas, qui est en train de se dessiner, je pense que ça soit repris par un collectif qui est, comment dire, peut-être de chefs d'entreprise déjà établis sur le marché du vélo,
oui,
très sensible au Made in France,
oui,
très sensible au savoir-faire. Comme vous l'expliquiez tout à l'heure, si Sifak et Emerald sont deux marques fortes, elles reposent d'abord sur du savoir-faire, donc sur des femmes et des hommes.
Les 11 salariés de l'équipe,
voilà. Oui. Alors après, c'est toujours pareil, pour retrouver un équilibre, il y aura sûrement des choix à faire, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui respecte l'héritage, mais qui a une vision totalement neuve et qui connaît aussi les difficultés, ou en tout cas les caractéristiques du marché du vélo, hein, qui est un marché en ce moment en difficulté, et qui arrive à vraiment identifier des atouts. Mais le repreneur idéal, j'ai envie de dire qu'il serait au pluriel,
oui,
et il pourrait même être, comment dire, emmener avec lui, même par la suite, un financement participatif en complément avec
une sorte de scope avec chaque actionnaire qui pourrait participer aux décisions et à la continuité de Sifak International.
Je pense en tout cas, oui, qu'il y a quelque chose qui est fort, et on avait échangé la semaine dernière, et mon moral est bien meilleur aujourd'hui qu'il était la semaine dernière, mais il y a quelque chose qui est fort aujourd'hui, c'est qu'on a le sentiment qu'il y a un élan de solidarité et de soutien qui démontre à la fois que c'est pas qu'un sujet d'un petit atelier en Indre-et-Loire, mais c'est un sujet quasiment de filière, c'est-à-dire il y a,
ouais,
un savoir-faire à protéger et qu'il y a, et aujourd'hui, pour que le projet de reprise soit solide, parce que voilà, il ne faut pas se cacher, même si on reprend la barre du tribunal et qu'on reprend des actifs, les enjeux ne sont pas simples et qu'il faudra vraiment quelque chose de solide, autant financièrement que d'un point de vue entrepreneurial et commercial. Et j'ai un sentiment que c'est dans ces cas-là que, en associant des forces, en associant des compétences et en associant une vision. Je pense qu'il faudrait une vision commune, c'est-à-dire ne pas rejeter tout ce que tu fais à casser, s'appuyer sur ses atouts, et puis essayer.
Mais la twister un peu l'entreprise et la marque pour qu'elle continue.
Ouais, et puis avoir.
Vous évoquez une entreprise en Indre-et-Loire, je sais que vous êtes du côté de la Fuye, à quoi, une quarantaine ou 30 kilomètres de Tours. Est-ce que, par exemple, déménager l'unité de production et tous vos sites, enfin, et tous vos outils, et la cabine de pâture et l'ensemble des outils, c'est quelque chose qui est compliqué en termes logistiques de déménager tout ça, ou finalement c'est assez faisable, il suffit juste d'organiser le déménagement?
Alors, c'est assez faisable, mais c'est plus compliqué que d'autres outils logistiques, parce qu'il y a des problématiques d'aspiration, de réseau, d'air, et puis on a trois métiers différents.
Oui. Hein.
Vous avez de la soudure d'un côté, vous avez de la peinture de l'autre, vous avez de la stratification, donc c'est clair que... c'est pas quelque chose d'anodin.
Oui, ça se fait pas... On met pas trois cartons et puis c'est fait, quoi.
Non, ça serait... On n'appelle pas, comment dire, les déménageurs bretons et puis on leur demande pas de faire le transfert. Non, mais par contre, et là où la question elle est pertinente, c'est que c'est un sujet qui est important pour le repreneur. C'est-à-dire que aujourd'hui, les équipes sur les 11 salariés et 10 vivent à côté de Tours. Aujourd'hui, on est à la Fuye. Bon, il y a eu un déménagement sur Tours qui était prévu et pour différentes circonstances et différentes raisons, ça n'aura pas lieu dans le format qu'on avait imaginé, mais ça sera un sujet. Si l'entreprise peut redémarrer sur son site actuel, il faudra que rapidement elle puisse se rapprocher de Tours et puis redonner une dynamique. Et puis,
oui, être un peu plus facile, un peu plus accessible et un peu plus visitable facilement. Ouais. On a évoqué le savoir-faire sur la réparation et sur la soudure de cadre. Vous faites aussi, je le sais, hein, vous fournissez environ une dizaine de fédérations internationales qui vous commandent des vélos, des tandems, notamment pour les Paralympiques, des médailles olympiques. Ça, c'est pareil, c'est un savoir-faire. Si demain, CIFAC International ferme, comment ils font nos athlètes paralympiques pour rouler sur des beaux tandems et bons tandems? Il y a des gens, vous avez des concurrents sur ce marché-là?
On a quelques concurrents, on a des concurrents, on a finalement un concurrent anglais, on a Duratec, un concurrent tchèque, mais après, aucun ne va aussi loin dans le sur-mesure que nous. Beaucoup seront sans solution, clairement.
Oui. Oui, reprendre une entreprise CIFAC International pour aller glaner des médailles olympiques, c'est pas neutre non plus. Ça peut être, si ça peut faire plaisir à l'ego d'un repreneur ou d'une repreneuse, c'est parfait.
Oui, ça participe à l'ego, et puis en plus, c'est pas juste pour remplir l'armoire à trophées, c'est aussi parce qu'en plus c'est une activité économique qui aujourd'hui, par rapport au savoir-faire du carbone, le carbone nous permet de réparer des cadres, mais de faire aussi des cadres sur mesure, et le tandem carbone, alors on est clairement sur un marché de niche, mais la notion de sur mesure et notre capacité à faire du sur mesure finalement s'exprime totalement à travers les tandems. Pour nous, c'est un moyen aussi de pérennisation, et en tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas juste un enjeu de communication, c'est un enjeu commercial. Et aujourd'hui,
et un enjeu de aussi de ressources et de revenus. Il faut que on est toujours sur Radio Cause Commune et vous êtes toujours en train d'écouter Rayon Libre. Aimerait que je suis obligé de vous couper la parole parce que il est 14h24 et qu'il faut écouter Abel Guggenheim toutes les semaines en 3 minutes. Lui aussi, il nous propose une entreprise du vélo à lui tout seul, un label du patrimoine vivant. Abel Guggenheim, aujourd'hui, il évoque justement le tandem et la version 2026. Et puis juste après Abel, j'aurai une petite question un peu personnelle pour vous. Vous avez 3 minutes pour réfléchir. Aimerait que vous êtes-vous projeté dans votre avenir? Est-ce que vous savez de quoi vous avez envie? Mais pour l'instant, on écoute Abel Guggenheim. À tout de suite.
Cause commune, la voix des possibles.
Bonjour.
Lorsque j'étais jeune, il m'arrivait de me trouver dans des soirées à la fin desquelles il était habituel que les personnes venues en voiture proposent à celles venues en transport en commun de les raccompagner. Je te ramène. Étant alors très souvent le seul cycliste, j'étais aussi le seul à ne pas participer à cette phase de convivialité, puisque je ne pouvais ni ramener, ni être ramené. Ayant eu l'occasion d'essayer un tandem, véhicule bien sûr surtout utile lorsqu'on est à deux, je constatais que même quand on est seul, c'est agréable à piloter, c'est plus lourd et moins maniable qu'un simple vélo, mais pas beaucoup. Je décidai de m'en acheter un, ce qui me permettrait de pouvoir proposer aux personnes non véhiculées de les ramener. Je l'utilisais pour la première fois à la fête de l'humanité à La Courneuve, je n'y croisais personne susceptible d'être amené et... revenant à l'endroit où j'avais garé mon engin, je constatais qu'on me l'avait volé. Ce vol m'a plongé dans un moment de grande désespérance qui m'a fait nativement abandonner mon projet et racheter un vélo simple. Si je vous raconte cette anecdote personnelle, c'est parce que je suis depuis un certain temps une initiative qui me semble intéressante, qui pourrait permettre à chaque cycliste, sans acheter de tandem et sans avoir à tirer un poids supplémentaire, de proposer, comme j'avais eu l'intention de le faire, je te ramène? C'est tout simple, il s'agit d'une selle à deux places que l'on peut monter sur n'importe quel vélo. Celui qui a eu cette idée s'appelle Stan Jalot et il a nommé l'objet Selle Jalot. Il n'a pas seulement eu l'idée, il a fait en sorte qu'elle devienne une réalité concrète, il l'a prototypée, a fait les essais et démarches administratives nécessaires pour qu'elle soit physiquement et réglementairement conforme. Je vous ai déjà parlé du dossier suspendu dans mon bureau et du dossier dans mon bureau virtuel, dénommé « J'y retrouve tout » dans lesquels je range, depuis longtemps, dans l'un les documents papier, dans l'autre les documents informatiques, concernant toutes les innovations en rapport avec le vélo, dont j'ai observé que beaucoup finissent en eau de boudin. Je ne peux pas garantir à 100% que ce ne soit pas le cas aussi de la selle Jalot. Mais avec le temps, j'ai acquis un peu de flair dans ce domaine et je suis persuadé que ce produit, simple et répondant à un besoin réel des cyclistes, a un grand avenir. On le voit d'ailleurs dans nos rues. Beaucoup de vélos sont effectivement utilisés par deux personnes dans des conditions de stabilité et de sécurité parfois un peu limites et souvent avec un grand inconfort. Vous l'avez peut-être aussi observé, tous les deux roues motorisées comportent depuis toujours deux places. Pourquoi ? Bien que ces engins puissent être utilisés pour transporter une deuxième personne, ils sont très majoritairement utilisés sans passagers ni passagères. Il en sera sans doute de même pour les vélos équipés de cette selle biplace, qui continueront à être utilisés surtout en vélo-solisme, mais avec toujours la possibilité d'être utilisés à deux, avec confort et en sécurité. La vente de la selle Jalot vient d'être lancée, on mettra sur la page de l'émission un lien vers une description complète et la possibilité de la commander. À lundi prochain.
Le lien est mis, hein. Alors comme ça on vole des tandems à la fête de l'UMA, tout se perd mon brave homme. Émeric, j'ai une petite question pour vous, est-ce que vous vous êtes projeté vers votre avenir, de quoi vous avez envie à part d'aller rouler sur des beaux vélos?
D'aller rouler sur des beaux vélos. Je pensais pouvoir me projeter, mais aujourd'hui je suis plus projeté sur le sauvetage de l'activité. Donc,
Oui, parce que ce que vous proposez aussi, hein, c'est-à-dire que vous proposez d'accompagner le temps qu'il faut les personnes qui reprendront votre entreprise.
Moi, ma priorité absolue, c'est que l'activité soit sauvée et que si le repreneur considère que je suis une solution, en tout cas que je suis nécessaire à ce que l'entreprise puisse rebondir, je serai présent.
Oui. Donc pour l'instant, ça veut dire que pour vous, c'est encore un peu tôt pour savoir ce dont vous avez vraiment envie. Vous voulez juste qu'il y ait du changement et que CIFAC International continue et que vos 11 salariés aient du boulot, quoi.
Ouais, du boulot et puis surtout un savoir-faire et des passionnés. On ne va pas disparaître une marque aussi iconique, deux marques aussi iconiques que CIFAC et Emerald. Donc oui. Aujourd'hui, jusqu'au 31 mars, je suis totalement plongé. J'arrive pas à penser à moi. Après, on va dire que si j'arrive à accompagner et si j'arrive à penser à moi, je voudrais m'occuper de mon fils.
Oui.
Mon fils, il a des problèmes de santé, j'aimerais vraiment m'en occuper, puis aller faire un mois du vélo et aller voir tous les gens que j'aime.
Peut-être que vous allez venir jusqu'au 22 rue Bernard Dimet chez Rayon Libre et chez Cause Commune, alors c'est ça que ça veut dire. Mais après,
ça sera l'une des étapes.
Peut-être que je crois que vous m'aimez alors que vous ne m'aimez pas du tout. Je vous dis à la semaine prochaine et auditeurs, auditrices, n'oubliez pas, hein, le vélo est une chance, le vélo made in France, une chance et un patrimoine. Ce serait dommage de ne pas l'enfourcher. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous dis à tous et à toutes, bon après-midi.
Rayon Libre.